Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin, à la technique ce matin, Jenab Sangaré. Son regard cette semaine sur le roman noir de 1954 des Clics et des Cloaques signé Jim Thompson et adapté au cinéma par Alain Corneau sous le titre Série Noire, livre qui met en scène un démarcheur bandit qui ne peut se passer des femmes tout en ayant avec elles une patience plus que limitée. Habité par la truculente ambivalence habituelle des personnages de Thompson, le désespéré aussi entre une sincère empathie pour les créatures abîmées et une funeste malignité. Le roman aussi drôlatique que noir se finit malgré tout de façon bien plus sinistre que le film, qui est pourtant déjà un modèle de lugubre. Je ne sais pas si je vous donne vraiment envie de le lire en vous disant ça. Disons qu'il peut plaire aux caractères équivoques. Acteur, auteur et metteur en scène suractif et pour employer un de ces termes, surdésireux, notre invité dirige les théâtres Liberté à Toulon et Château-Vallon à Ollioul, composant la scène nationale Château-Vallon-Liberté. Je ne vais pas citer son impressionnante filmographie dont vous connaissez forcément une partie. Je préfère signaler que le singulier a mis en scène en 1986 un spectacle au titre surréaliste Succubation d'un cube des APA, acteurs, producteurs, associés. Je reste intriguée. Que l'un de ses ouvrages autobiographiques s'intitule Un homme sans identité, que jeune chanteur est le nom de son disque, et La Cloche, celui d'un court-métrage qu'il a réalisé avec Michel Aumont en clochard. Quoi d'autre ? Il fait de la chute libre et de la moto. Vous savez tout, mais tout et rien se valent chez cet être cherchant à se diluer.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Charles Berling.
Bonjour Juliette.
Juliette ? Bah, non, je m'appelle Eva.
Eva, bonjour Eva.
Ouais, c'est parfait comme début. Écoutez, Michel, êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Moi ?
Oui.
Oui.
Oui, sans hésitation.
Oui, sans hésitation.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Bien, elle est encombrée de beaucoup de monde.
Oui, j'ai l'impression.
La cohabitation avec moi-même, oui.
C'est tout ?
C'est tout, ben, pour l'instant.
Dans Un homme sans identité, Charles Berling, vous dites que vous avez longtemps eu, notamment adolescent, le sentiment de ne pas exister. Comment est-ce que vous décririez ce sentiment ?
Un sentiment de que j'avais à jouer un film avec Cédric Ken qui s'appelait L'ennui ou la noia en italien, mais le terme précis de l'ennui, c'était le mot voulait dire plus précisément ne pas arriver à saisir les choses. Donc c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire ne pas arriver à accrocher sa vie, à accrocher les choses, à accrocher la réalité. Et donc c'est grâce à la fiction, c'est grâce au fait de faire de l'art dramatique que j'ai commencé à pouvoir attraper quelque chose de ma réalité.
Vous dites d'ailleurs, Charles Berling, chez un acteur, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la vie.
Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose où la réalité est parfois compliquée. Enfin, on peut avoir du mal avec la réalité. Et donc, je me souviens par exemple quand j'avais tourné avec Michel Bouquet. Michel, il était là en face de moi. Je jouais au ping-pong en face de lui puisqu'on avait une scène de ping-pong dans le film. Il me disait, tu sais jouer au ping-pong, mais c'est absolument merveilleux. Mais comment est-ce que tu fais ? Mais il était très impressionné par le fait que cette petite réalité de savoir jouer au ping-pong, c'était possible. Ça m'a beaucoup impressionné, mais c'était un être, lui, il était au sommet d'un être de fiction.
Charles Berling, vous dites qu'aujourd'hui encore, vous n'avez aucune identité ou alors une infinité. Vous vivez dans la dispersion, la dilution, en vous plongeant dans tout. Est-ce que c'est une fuite de soi ?
Sans doute, oui, je pense. Mais est-ce que c'est de la fuite, disons, de ce vide qu'on peut ressentir en soi-même ? Mais je pense que je suis pas tout seul dans cette situation. Mais voilà, donc oui, c'est. Mais en même temps, c'est une fantastique exaltation. C'est-à-dire, c'est passionnant.
Et c'est fatigant aussi. J'imagine.
C'est très fatigant. Mais la vie de toute. Je crois que la vie est fatigante. Moi,
oui.
Même si je fais rien, je trouve ça fatigant. Parce qu'on ne fait jamais rien.
Oui.
Disons que là, mon problème en ce moment, c'est d'arriver à ne rien faire, ce qui devient très compliqué.
Oui, vous avez l'air d'être réellement suractif.
Oui.
Vous dites, si je continuais à ne faire que l'acteur, je me vomirais.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que c'est un bel objet si on fait que ça. On est réduit au désir des autres. Et donc, je ne me suis jamais résolu à ne dépendre que du désir des autres. J'ai besoin absolument de désirer moi aussi.
Vous dites, enfin vous avez écrit, « Je suis un petit roi renversé, mal assis sur des montagnes de non-sens ». Comment entendez-vous cette phrase, Charles Berling ?
C'est-à-dire, j'ai l'impression, malgré tout, même si je ne suis, d'être quand même assez privilégié, parce que j'ai la chance d'exercer ma passion, de pouvoir vivre avec ce métier bizarre, donc d'avoir ce privilège. Et puis, en même temps, c'est un privilège sur du toc. Enfin, j'ai conscience, disons, qu'un être humain, en lui-même, il n'est pas grand-chose. Et il est tout. Enfin, donc c'est pour ça que je parle de petit roi, c'est une sorte de royaume de l'imagination. Ça m'a toujours frappé. La possibilité de pouvoir contrer la réalité, de pouvoir se venger de la réalité, de pouvoir se consoler de la réalité en s'inventant d'autres vies.
Il y a deux choses qui reviennent tout le temps, c'est évidemment le jeu, la fiction, et la mer. C'est la mer qui vous donne envie de vous lever. On trouve des allusions assez vite quand on s'intéresse à vous. Vous l'avez fréquenté petit à Brest, Toulon ou Tahiti. Vos théâtres sont proches d'elle.
Parce qu'il y a un double sens dans le mot la mer.
Oui, je sais, j'y ai pensé en le rédigeant.
Vous me racontez, je n'entends que maman. Quoi.
Oui, on va en parler de votre mère un peu plus tard, si vous avez envie, évidemment.
Ah oui, avec plaisir.
Mais parlons d'abord de la mer MER, vos théâtres sont proches d'elle, vos premiers souvenirs de navigation datent de l'âge de 13 ans avec votre père, sur des bateaux à voile au large de Toulon. Et vous dites, Charles Berling, que les sorties à voile n'ont aucun sens, et c'est justement ce qui vous fait les aimer.
Oui, c'est-à-dire que, justement, ma mère, M-E-R-E, quand elle détestait la voile, elle détestait le bateau. Et donc, elle prenait la barre du bateau, elle tirait dans un sens, donc on tournait en rond, et elle disait, vous devez être content, là, on tourne vraiment en rond, parce que ça ne sert à rien, ça ne va nulle part, ça va lentement. Il est vrai que, enfin, je pense que c'est une métaphore de la vie, c'est-à-dire, il y a un non-sens absolu. Mais en même temps, il est très beau, et quand on commence à l'accepter et à s'y plonger, sans mauvais jeu de mots avec l'élément liquide qu'est l'océan, eh bien on prend plaisir au présent, donc à cette chose inutile qui est d'aller se promener en mer.
Votre père était médecin de marine ?
Oui, absolument. Et anesthésiste.
Anesthésiste.
Oui.
C'est drôle parce que juste avant qu'on commence cette émission, Charles Berling, on se disait hors antenne, enfin vous me racontiez, que vous vous étiez ouvert la jambe pendant un spectacle d'Hamlet sans vous en rendre compte, et qu'après le spectacle, on vous a fait remarquer que votre jambe était en sang, et je vous ai dit, on pourrait utiliser ça pour faire des anesthésies, parce qu'en fait, vous avez dit que quand on jouait, on ne sentait rien.
C'est exact. Oui, j'ai joué Hamlet, et je me suis aperçu après coup que je m'étais blessé, pas gravement, mais enfin quand même, ça saignait beaucoup. Parce que quand on est sur scène, je crois qu'on est galvanisé, il y a une force qui vous dépasse, qui prend possession de vous. Il y a quand même... c'est comme le D-book, c'est mon premier spectacle professionnel, c'était le D-book. Eh bien, on est possédé, on est un peu schizophrène, quoi. On est mu par une force qui est totalement plus forte que vous. Et donc, ça crée pas une insensibilité, au contraire, mais le corps est tellement mobilisé, il est tellement à chaud, il est tellement brûlant que je pense qu'il peut supporter beaucoup de choses.
Vous avez un voilier ?
Oui.
Qui vous ruine ?
Voilà encore une chance.
Vous êtes parrain du dernier bateau du navigateur Marc Tiercelin.
Oui.
Et vous allez jouer le père de la navigatrice Florence Artaud, Jacques Artaud, dans un film qui s'appelle Flo, c'est ça, de Géraldine Danon ?
Oui.
C'est votre amour de la mer qui a guidé ce choix, j'imagine.
Oui, d'autant plus que j'étais totalement bouleversé de faire ce rôle, parce que j'ai connu Florence Artaud, j'ai fait quelques régates avec elle, et je dois dire que c'était une femme qui m'impressionnait beaucoup, qui était une femme de très courageuse et un peu folle, comme j'aime.
Justement, en parlant de courage, Charles Berling, la mer ne vous effraie pas ? Parce qu'elle est insondable, mystérieuse, fatale ?
Ah si, si, beaucoup. Moi, je suis très peureux. Si, je suis un grand peureux. Mais
et vous allez vers le risque ?
Quand on est peureux, on essaye de dominer sa peur, on essaye de l'affronter, donc on est attiré par les situations où on va avoir peur. Mais j'ai très peur en mer. Ça fout la trouille, la mer, parce que c'est très puissant, c'est-à-dire la mer peut vous engloutir d'un moment à l'autre. On le sait, c'est comme la chanson de Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est d'ailleurs ce qui me plaît dans la voile, mais c'est comme l'art dramatique peut aussi vous engloutir. vous pouvez vous y perdre dans ce labyrinthe fascinant et passionnant que sont les fictions, que sont les rôles. Il y en a qui s'y sont perdus, et on s'y perd régulièrement.
On se perdra, mais de façon un peu plus maîtrisée dans quelques instants, puisqu'on évoquera avec vous, Charles Berling, Albert Camus, Romain Gary, Bob Wilson, Stanley Kubrick, Raphaël Haroche, Un pardon et Un cachalot. Premier artiste signé sur le label de Philippe Catherine. Vous écoutez L'Embellie sur France Inter. Nous sommes avec Charles Berling. Les changements auxquels vous souhaiteriez assister concernent la guerre et le communautarisme.
Oui. La guerre. Les peuples belliqueux, les tyrans belliqueux, les dictateurs belliqueux, ceux qui veulent la guerre pour exister, ça, pour moi, c'est une des plus grandes catastrophes humaines. La méchanceté humaine est incarnée là, avec la cupidité, le besoin de dominer, le pouvoir. Pour moi, c'est atroce. Et là, en ce moment, il se passe des choses qui sont de cet ordre, où des gens, pour continuer à maîtriser leur pouvoir, eh bien, sont obligés de surenchérir sur le nationalisme, sur la guerre, sur des idéologies absolument putrides. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'atteint beaucoup, qui me fait désespérer de l'homme.
Et le communautarisme ?
Le communautarisme, il est, pour moi, il va contre l'universalisme et j'ai cette utopie universaliste. Même si c'est une utopie et que quand on est universaliste, on en a conscience, mais malgré tout... Le communautarisme, c'est renoncer déjà à ça. C'est-à-dire, c'est se dire, ah ben, alors on fait partie de cette communauté, pas de celle-là, pas de celle-là, pas de celle-là. Mais moi, j'ai toujours ressenti que j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et donc, si on commence à être attaché à une communauté et enfermé dans une communauté, ou comme on peut être aussi enfermé dans une famille, eh bien, on ne peut pas aller voir ailleurs.
Charles Berling, vous assumez d'être ambivalent ou contradictoire. Si l'on regarde vos actes, vous êtes engagé. Vous êtes parrain de l'association toulonnaise Sans Toi et Si C'était Toi Toulon 83, qui aide les sans-abri et offre à quelques bénéficiaires la possibilité d'assister gratuitement au spectacle du Théâtre Liberté. Vous organisez souvent des événements en rapport avec l'actualité au théâtre. On vous a vu aux côtés de familles expulsables. Vous avez parrainé une famille camerounaise dont la mère était sans papier. Mais vous dites, Je hais la charité. C'est un sentiment pourri. La lutte auprès des sans-papiers, c'est de l'égoïsme bien partagé. Si dans notre société, il y a des gens trop frustrés et malheureux, ça nous pète à la gueule. Moi, en bon bourgeois, je comprends ça. Et je ne comprends pas qu'une certaine bourgeoisie ne comprenne pas ces calculs-là. Je voulais citer cette phrase parce que je la trouve vraiment intéressante. C'est honnête et en assumant de pas être motivé par un sentiment noble, ça amène finalement quand même à un résultat vertueux.
Oui, c'est-à-dire, je pense que la justice et la justice sociale sont indispensables. Et la justice, ça n'est pas de la charité. C'est l'évaluation et l'application des droits. C'est pas pareil. La charité, ça veut dire que vous restez dans la situation injuste où vous êtes. Donc, je dis ça parce que je dis c'est un mauvais calcul, l'injustice sociale. À terme, c'est un très mauvais calcul. Et je pense que d'ailleurs, c'est en train de s'amplifier l'injustice sociale. Et comme par hasard, d'ailleurs, on parle souvent des problèmes écologiques et on dit qu'ils sont liés à la justice sociale. Et c'est pas faux, c'est très intéressant. Et pour moi, je pense qu'il faut, d'abord lutter pour la justice.
Justement, vous êtes aussi impliqué dans la lutte contre le dérèglement climatique. Vous avez signé une tribune dans Le Monde en 2019 parmi un collectif d'artistes et de personnalités surnommé The Freaks. Et c'est vous qui faites la voix française du documentaire Une vérité qui dérange, oui, de David Guggenheim, mettant en scène l'engagement d'Al Gore. Mm-hmm. C'est quelque chose qui vous préoccupe ?
J'ai 64 ans et pour moi, je suis d'une génération entre insouciante à ce niveau-là, à tort d'ailleurs, mais on n'était pas éduqué pour être sensible à ce problème qui était déjà extrêmement présent. Élisée Reclus en parlait déjà au 19e siècle.
Le frère d'Onésime Reclus. Oui. Ils ont les plus beaux prénoms.
Et donc moi, je crois que comme je vois la catastrophe arrivée, je ne peux pas y rester insensible. C'est ce qui fait que je suis devenu végétarien, que je...
Comme Élisée Reclus.
Oui, sans doute. Ah oui, je ne le connais pas bien, mais j'avais lu quelques textes de lui, je l'ai lu un peu, et j'ai trouvé incroyable que déjà au 19e siècle, on dise les choses qu'aujourd'hui on fait croire, on fait semblant de découvrir chaque année. Mais pour moi, c'est un combat énorme et on ne peut pas, vis-à-vis de les générations qui arrivent, on ne peut pas. C'est exactement comme pour la scène nationale que je dirige, je pense qu'il faut. Il faut penser à l'avenir de ces institutions, pas seulement à aujourd'hui, et ni à hier, surtout pas à hier, mais à l'avenir.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu.
Les premières lignes de L'étranger lues par leur auteur Albert Camus en 1954. Charles Berling, vous avez mis en scène et joué Caligula. Vous avez fait une récente tournée de lecture d'extraits de plusieurs livres de Camus. Vous avez intitulé l'un de vos récits autobiographiques « Aujourd'hui, maman est morte ». Et vous allez jusqu'à affirmer que le premier homme fait partie des textes qui sauvent une vie.
Oui, quand j'ai découvert Camus, j'étais adolescent et comme on le disait tout à l'heure, j'avais beaucoup de mal à exister, à vivre. C'était compliqué pour moi et la perception des autres, moi à l'intérieur de l'école, du travail, et quand j'ai découvert Camus, j'ai compris que ces auteurs-là n'étaient pas des idoles ou des auteurs avec un grand A, c'est-à-dire des phares de culture, mais qu'ils étaient des amis. Ils me sont apparus comme des amis intimes qui pouvaient enfin faire que je n'avais pas forcément honte de ce que je vivais intimement. Et donc, dans ce sens-là, ça m'a sauvé la vie.
Vous le citez dans « Aujourd'hui, maman est morte », qui porte le titre de la première ligne de L'étranger. Vous citez « Retour à Tipaza ». Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. C'est ce que vous avez appris, Charles Berling ?
C'est ce que j'ai appris.
Est-ce qu'il y a un été invincible en vous ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui, j'ai beau prendre beaucoup de coups et enfin de coups de
non, enfin, j'exagère, mais c'est pas vraiment, mais disons que pour moi, je ne perds jamais le goût de vivre. Enfin, quand je le perdrai, ben, d'ailleurs, Camus parle du suicide comme de la plus grande question philosophique, il a raison.
Mais
pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Non, je dois dire que j'ai la chance de. Ben d'ailleurs, là aussi, je me reconnais beaucoup en Albert Camus, c'est-à-dire, je suis très pessimiste, mais je suis d'une nature optimiste.
On continue à découvrir votre panthéon existentiel.
Vous savez, j'ai écrit quelque part dans un de mes livres une phrase que j'espère qu'un jour on se souviendra. Je dis que la plus grande force spirituelle de tous les temps, c'est la connerie. C'est majuscule. Alors racisme, antisémitisme ou autre chose, ce sont des manifestations de la connerie. Et vous savez, ce qui s'imposerait à l'heure actuelle, c'est vraiment une étude de ce phénomène, parce que la puissance de la connerie est absolument extraordinaire, vraiment plus forte que tout ce qui s'oppose à elle sur le plan des idées.
Romain Garré au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie en 78 sur France Inter. Charles Berling, vous avez choisi de parler de Garré dans l'émission et vous allez l'interpréter bientôt.
Oui, par hasard, on m'a proposé de jouer un film pour la télévision qui est très bien écrit et donc je me réjouis de faire ça, même si je me dis je vais tenter de le faire parce que justement ce qui est beau chez Romain Garré, c'est qu'il est insaisissable. Et là, j'entends sa voix et il parle de la connerie et ça me fait penser à Hannah Arendt qui dit que le mal n'a pas de racine. C'est pour ça qu'il peut s'étendre comme un champignon. Alors que la vertu, le beau, il est ancré quelque part, il est ancré en nous. Et donc, c'est pour ça que ça se répand moins facilement. Et donc, il est vrai que la connerie se répand bien vite.
Moi, j'ai deux associations d'idées quand on évoque Romain Garré. La première... Il était gaulliste et vous vous appelez Charles pour Charles de Gaulle.
Oui, tout à fait, parce que je suis né en 58 et donc mes parents, ils admiraient énormément de Gaulle. Et je lui ai même serré la main à Tahiti, puisqu'il était venu dans les années 60 un meeting, il était passé à Tahiti. Et moi, j'étais un petit garçon de 6 ans, 7 ans, enfin 7 ans, 6 ans. Et donc, ce grand homme est passé. Et puis, il y avait les gens, dans ces cas-là, s'écartent pour laisser passer l'idole, enfin, le grand Charles de Gaulle qu'il était dans les années 60. Et puis, moi, je me suis retrouvé par hasard pile devant lui. Il s'est adressé au petit garçon, il m'a serré la main.
Et la seconde association d'idées, c'est la mère, évidemment, puisque Garré lui a consacré, comme vous, Charles Berling, un ouvrage, La promesse de l'aube. Votre mère qui, elle-même, a écrit un livre qu'elle a distribué à tous les membres de sa famille, Le Négatif, un livre de mémoire.
Complètement. Elle a écrit Le Négatif, c'était marqué...
Vous c'est connaissez, beau de faire ça.
C'est une référence à la photo. Pas le négatif dans le sens du mal, mais le négatif comme vous connaissez de moi le positif, la photo, eh bien voici le négatif. Et oui, c'est très beau, elle a pas voulu le travailler, donc c'est un livre qui aurait, je lui avais dit d'ailleurs, tu devrais le travailler, et qui racontait, sans raconter totalement son histoire, parce que je pense que c'était pas possible pour elle de le travailler, parce que les révélations qu'elle allait y faire étaient trop douloureuses, je pense.
Puis c'était pour que vous le lisiez, c'était pour un usage privé.
Mais c'est parce que c'était une femme qui s'exprimait largement. C'était une femme de la Méditerranée. Donc
oui, qui a interrompu d'ailleurs une de vos pièces en parlant.
Complètement.
Le bavard.
Le bavard, oui. Le bavard de Louis-René Desforêts. Et quand je jouais, j'entends une voix dans la salle. Un jour, c'était un monologue. Et donc je disais, je pense que vous êtes en train de vous demander que si et que ça. Le monologue posait de fausses questions. Enfin, c'était un processus théâtral. Dans le roman, Louis-René Desforêts pose des questions au lecteur. Et là, c'était à l'auditeur. Et donc je pose ma question. Et là, j'entends une voix dans la salle qui dit, oui, moi j'ai quelque chose à dire. C'est très mauvais. Et après, je me disais, je connais cette voix. Et c'était ma mère. Ça a été un choc.
Ah oui, j'imagine.
Light is the most important thing in the theater because it.
La lumière, c'est ce qu'il y a de plus important au théâtre. Parce qu'elle met en contact les sens de l'ouïe et de la vue. Bien sûr, les sens olfactifs et autres, mais elle nous aide à entendre et à voir. Et une lumière architecturée peut devenir comme un acteur. Vous pouvez éclairer un objet et éteindre toutes les autres lumières, et là, il se produit un jeu. Et la lumière remplit la fonction d'un acteur.
Le metteur en scène américain Bob Wilson dans l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture en 91 au micro de Thierry Grillet. Vous avez choisi cet artiste total, Charles Berling.
Oui, parce que quand j'étais à l'INSAS, à l'école de théâtre en Belgique, on avait été en groupe d'ailleurs avec d'autres étudiants. On était élèves, apprentis, acteurs d'art dramatique et on a été voir ce spectacle. Il jouait avec un adolescent de 16 ans qui s'appelait Christopher Knowles et qui était handicapé mental. C'était Christopher Knowles et Bob Wilson, je ne me souviens plus comment ça s'appelait. Je pense que c'est Le Regard du Sourd, mais je ne suis pas sûr. Et donc on voyait ça, et voyant ce spectacle, après on a eu une des grosses disputes, parce que au fond, cet handicapé mental qui était sur scène, il était bien meilleur que nous. C'était très difficile à accepter pour des jeunes cons que nous étions, élèves acteurs qui se pensent des... Chacun se dit, moi je suis un génie, et donc on voit que quelqu'un, il a une présence mais infiniment plus forte. Ça a été très déstabilisant et très intéressant, parce que c'est là qu'on comprend qu'être acteur, c'est aussi une loterie. Disons qu'il m'a fait un choc, plusieurs fois Bob Wilson m'a fait des chocs esthétiques profonds. J'ai d'ailleurs, c'est marrant, il parle de la lumière dans son interview, et moi j'avais passé à une audition pour Civil Wars, il allait monter ça, et des amis qui étaient assistants de Bob Wilson me disent « Ah bah tu devrais passer l'audition ». Donc j'y avais été. Et il m'a demandé de faire un mouvement très lent devant lui, c'est tout. Et c'était à la Sainte-Baume, et puis d'un coup, il y a une panne d'électricité. Parce que je dis ça parce qu'il parle de la lumière, j'ai pas entendu cette interview. Et panne d'électricité, alors il s'est pas démonté, il a pris des bougies, il a allumé les bougies, il a dit « Continuons ». Il a fait sa lumière, il a dit « C'est très beau comme ça ».
Il dit « Le théâtre ne devrait jamais commencer ou s'arrêter, c'est une ligne continue ».
J'adore ça. Et je trouve, quand on joue, on est toujours très, très attentif à ce qui est avant de jouer et puis même après. Et je comprends très bien ce qu'il veut dire, parce que je pense qu'il faut pas, il faut s'inspirer de la réalité pour être dans la fiction et vice versa.
Il y a une pièce là bientôt avec Isabelle Huppert, qui est Marie said what she said. Vous allez aller la voir?
Oui, mais alors moi mon problème souvent c'est que comme j'en fais trop, comme vous l'avez dit,
oui.
Eh bien je joue souvent, donc j'aimerais bien.
C'est aller un la fantasme. Voir sur scène.
Ah, j'adorerais
mais
par
aller
exemple
sur scène
passer des mois, aller voir tous les autres tout le temps. M'arrêter, faire que ça. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à réaliser ce fantasme.
Le poème symphonique « Ainsi parlait Zarathoustra » de Richard Strauss a jamais associé avec le film de Kubrick 2001 « Odyssée de l'espace » sorti en 1968. Charles Berling, vous avez choisi le génial réalisateur américain. Comment a-t-il façonné votre rapport au monde ?
Stanley Kubrick a fait des films absolument hallucinants et qui m'ont... comme beaucoup de gens, hein, mais qui ont... Enfin, et je dois dire, c'est un peu comme Gary ou même Camus. Pour moi, ce sont des créateurs qui ne se sont jamais enfermés dans une esthétique. C'est dingue. Ils ont réussi à faire... Kubrick a fait des films tellement différents, tellement riches, et à chaque fois, c'était des chocs. Donc, et je dois dire que ça m'a rassuré, des gens comme ça, parce que je ne me mets pas du tout à ce niveau-là. Mais pour moi... des gens qui font profession de foi d'être très différents tout le temps, c'est ce qui passe mal en général dans le commerce habituel de l'art dramatique, dans les industries, du cinéma, de la fiction. Mais pourtant, je trouve que c'est ça le génie. C'est très fort. C'est bien de pas être reconnu, en fait. C'est bien de disparaître dans des formes différentes. Je trouve ça totalement fascinant.
Quels sont les films que vous recommanderiez aux auditeurs de Kubrick?
Ben là, on a entendu l'Odyssée de l'espace.
Barry Lyndon, le pendant de Ridicule.
Oui, bien sûr, ça, évidemment, ça ne nous a pas échappé quand on faisait Ridicule.
Siècle.
Barry Lyndon, ou tout à fait. D'ailleurs, Patrice Lecomte, il en parlait. Il avait raison. Mais après, il y a Docteur Follamour, des choses comme ça qui sont... Enfin, Lolita... on pourrait tous les citer.
Ouais, Orange Mécanique, Full Metal Jacket.
Orange Mécanique, vous vous rendez compte de ce film? Full Metal Jacket... y compris les derniers, Eyes Wide Shut et des choses... Bon, enfin, Shining, bon... Là, je me souviens, j'avais tourné au Canada avec Philippe Noiret dans un hôtel où Bah hop, on était dans un hôtel à Tadoussac, là-bas, ces grands, grands hôtels, et on disait, tiens, on est dans Shining avec Philippe, c'était drôle. Parce que ça, c'est un auteur, c'est un cinéaste qui a marqué à jamais l'imaginaire de ma génération, et même d'autres, puisque vous voyez, vous êtes jeune, et vous, pour vous aussi, c'est important.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai ce que vous dites, qu'ils ne se ressemblent pas, à part dans une maîtrise totale et un génie, évidemment, mais...
Non, et regardez les livres de Gary, c'est dingue.
Oui.
C'est dingue. Il n'écrit pas le même bouquin à chaque fois. Et ça, on le paye.
Mais Gary a écrit sur l'identité, sur la non-identité. Pseudo, c'est exactement sur ça.
Ah, pseudo, c'est remarquable. Il arrive à faire parler Émile Ajar, à parler à quelqu'un qui n'existe pas, et à raconter sa vie. Mais raconter, en plus, à fictionner la vie. Et il avait appelé d'ailleurs Pavlovitch en lui disant, mais... Ne t'inquiète pas, hein, je te fais passer. Enfin, ne t'inquiète pas pour ce que je dis de toi, parce que c'est faux, tout le monde le. Mais parce que forcément.
Oui, Pavlovitch qui était officiellement Émile Ajar.
Oh, tout à
pendant
fait.
Un certain temps. No money, no pot, suitcase, but a fuck to give, ever got one. I'm riding shotgun in the 306, see you eat up big, feeling love drunk. Sometimes I wanna kill myself, cause failure's never been an option. Whilst living in the real world, I feel like I'm a real person. So tell me, did you say something, like paranoid? It's like I ain't got trust, misunderstood church boy, and I always been a happy boy. You either work hard for it, or you jacked up in the gym of steroids. I couldn't deal with hard things, so I put them in the pile. It's worthwhile. No heart from a hard drive, gloss I cry and I never know what's in store. Every time they talk, and listening becomes unsure. I wanna press reset, I wanna press restore. I wanna swim, get gently, holy water, baptized in the blood of my enemies. I just shrug and breathe heavily. Scold me no more, darling, when I'm out of my depth. Tie me up and leave me when I'm holding my breath. Oh, what a waste of time, what a waste of time. Oh, the best of times. Question everything, but fuck it, I'm free. Dragging my feet, I sweep the dirt underneath. My Persian rug, I'm trusting no one but me. You are what you eat. I must be nothing. Oh, we all get sad sometimes. So wishbone with no backbone. Phone distracts me from my life. Make plans but I'm bound to cancel. Roaming data don't provide a tariff with no hassle. Roaming data don't provide a tariff with no hassle. It's sad sometimes, it's a wishbone with no backbone. Phone distracts me from my life. Make plans but I'm bound to cancel. Roaming data don't provide a tariff with no hassle. Roaming data don't provide a tariff with no hassle. Scold me no more, darling, when I'm out of my depth. Tie me up and leave me when I'm holding my breath. Oh, what a waste of time, what a waste of time. Low at the best of times. 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 Sooner de Slow Thai dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Charles Berling. Charles Berling, vous aimez le kitsch ?
Le kitsch ?
Oui.
Non, pas spécialement.
Ah bon, bah moi, oui.
Tous les dauphins, les cachalots, tous les soleils, les oiseaux seront là pour nous guider. Tous les hommes, tous les bateaux viendront au devant de l'eau pour nous apprendre à rêver.
Tous les dauphins, les cachalots de Marie Laforêt pour introduire ce que vous aimeriez accomplir, Charles Berling, nager avec un cachalot, et vous aimez ce morceau.
Ah oui, Marie Laforêt. Ah. Mais Marie Laforêt m'a ému absolument, et dès mon plus jeune âge, je dirais. C'était vraiment une femme qui m'émouvoir dans le sens... attention, dans
tous
les sens.
D'accord.
Ah non, sa voix et cette chanson, quelle chanson, ça me bouleversait. Moi, j'étais fasciné par elle. Et d'ailleurs, je l'ai croisée après quand j'étais plus grand. Et ça m'a fait un drôle d'effet. Je me suis dit, tiens, cette femme, j'ai tant fantasmé sur elle quand j'étais adolescent et tout. Fais-moi l'amour comme à 16 ans. Fais-moi l'amour un peu trop vite. Toutes ces chansons, mais c'était extraordinaire. C'est ma mère écoutait ça en boucle et moi, du coup, j'écoutais.
Mais alors, est-ce que vous pourriez tout de même me parler du plus gros des cétacés à dents ?
Le cachalot, le cachalot extraordinaire. Oui, je peux vous en parler.
Alors pourquoi est-ce que vous voudriez nager à ses côtés ? Il possède le plus gros cerveau du règne animal et j'ai appris que ses vocalisations en cliquetis sont les sons les plus forts produits par un animal.
Oui. Et ben François Sarano, qui est un grand spécialiste des cachalots, qui faisait partie de l'équipe Cousteau, et d'ailleurs qui vient d'aller plonger là en Méditerranée, en face de Toulon, avec les cachalots, puisqu'il va voir régulièrement au large du Cap Sissi, au large de Toulon, il va voir les cachalots. Il les connaît, il les reconnaît, ils le reconnaissent. C'est-à-dire que on méprise. Bon, mais ça, je parle pour les animaux en général. On a un mépris profond, on a un sentiment de l'être humain se croit supérieur à tout. Bon, ça, c'est pas nouveau. On en parlait tout à l'heure. Ça s'appelle la connerie. D'ailleurs, comme par hasard. Romain Gary a très bien parlé des éléphants et il en a fait une allégorie de la liberté et des droits de l'homme.
Et des chiens aussi.
Il a bien raison, parce que de se comporter comme ça avec les animaux, c'est se comporter comme ça avec les autres hommes, avec nous-mêmes. Et donc, je crois que le cachalot est un animal qui a été longtemps considéré comme un monstre, comme un animal extrêmement méchant. Et François Sarano montre qu'on peut plonger avec et que ce sont des vrais copains, quoi. C'est-à-dire que c'est le contraire d'un monstre. Ça s'appelle nos cousins êtres vivants. Et donc, il est temps qu'on les considère un petit peu comme ça et qu'on arrête de les exterminer, de les détruire, de les mépriser à ce point. Alors là, on a à Toulon, par exemple, Hervé Glotin, un scientifique qui a mis au point des micros qui descend comme ça dans l'eau et qui écoute les cachalots, et comme ça on est en train de comprendre comment ils se parlent. Et suivant les régions du monde où ils sont, les cachalots ont des accents différents,
n'ont
pas le même langage. Mais oui, lisez
un
le retour
mexicain.
De Moby Dick de Sarano, vous allez comprendre. Mais c'est fascinant et c'est beau. Et donc c'est un des exemples de la richesse infinie de la nature, et en particulier des océans, et qu'on est en train, avec une sorte d'abominable complexe de supériorité, de détruire.
Lubris.
De briser. Comme là, je me réfère encore à Hannah Arendt qui dit l'homme croit que tout est permis et donc que tout est possible, et il se place au-dessus de la nature. Et au lieu de considérer ce qui lui est donné, qui est un cadeau extraordinaire, qui est d'une complexité magnifique.
Et moi, je voudrais citer quelqu'un d'autre que vous citez souvent, Charles Berling, c'est Saint Augustin, et cette phrase « Je suis arrivé à force de ma volonté où je ne voulais pas ».
Eh oui.
C'est votre cas ?
Oui, sûrement.
Ah bon ?
Oui.
Je vous ai demandé ce que vous aviez raté, vous avez répondu
trop...
peintre ou navigateur.
Oui. Non, je suis arrivé à force de ma volonté où je ne voulais pas. Cette phrase est pour moi extraordinaire, c'est-à-dire.
Et terrible.
Oui, parce que là, je travaille sur des textes de Bergman en ce moment, et il dit les morts ne sont pas morts, et ce sont les vivants qui se comportent comme des fantômes, et souvent il suffit de porter la tête un petit peu en avant, et tout d'un coup on comprend que ce qui avait l'air évident avait l'air comme on entend à l'extrême droite où les gens, enfin je sais pas, les politiques, quand ils disent mais enfin c'est le bon sens, mais ça n'existe pas, le bon sens, dans c'est-à-dire les choses apparaissent comme telles, mais elles sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus insolites, beaucoup plus folles. Et c'est ça qui fait que on aime l'art, les romans, c'est que on découvre qu'il y a des fenêtres de perception qui sont bien plus intéressantes que ce soi-disant sens commun.
Vous parlez d'art et vous dites avoir raté une carrière de peintre ou de navigateur. Charles Berling, dans Un homme sans identité, il y a vos dessins. Ou peut-être que ce sont des tableaux, je ne sais pas, c'est en noir et blanc.
Ce sont des tableaux ou des dessins, oui. Ben, c'est en noir et blanc parce que l'éditeur, il ne pouvait pas mettre la couleur, alors que moi, en plus, mes copains, ils disent « Mais non, t'as été un bon coloriste. » Alors, bon, j'ai regretté, mais c'est pas grave. Mais non, mais oui, j'ai toujours dessiné mal, mais toujours dessiné. Mais je m'en fous, je fais ça... déjà, quand depuis petit, je dessinais tous les murs de ma chambre, je dessine tout le temps, j'adore.
On écoute l'un de vos amis.
Il y a quelque chose de crépusculaire dans l'adolescence. Assez étrangement, on a l'impression que c'est le début de l'âge d'adulte, d'une vie, mais c'est surtout pour moi la fin de l'enfance, c'est le début... d'une certaine manière d'un exil, d'un endroit où on pourra plus jamais revenir. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans l'adolescence, c'est le début de la violence sociale, de la violence physique, des rapports de force qu'on soupçonnait pas, d'un monde qui s'avère si vaste et si cruel, quoi, et si complexe.
Raphaël Haroche, dans la matinale de la chaîne le 3 janvier dernier, pour la sortie de son premier roman Avalanche, que vous avez choisi comme recommandation de belles choses aux auditeurs, Charles Berling. Est-ce que vous l'auriez fait même si ce n'était pas votre ami?
Oui, parce que ça a beau être mon ami, quand la première fois que j'ai lu ce qu'écrivait Raphaël, je le reconnaissais, je ne le reconnaissais pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça un très bon auteur, c'est quelqu'un qui révèle des choses de lui-même qui ne sont pas visibles à l'œil nu, je dirais. C'est un peu... Donc lui, il fait partie de ça. J'ai été absolument estomaqué par son écriture.
Avalanche, c'est son roman paru cette année chez Gallimard après deux recueils de nouvelles. Est-ce que vous pourriez décrire ce dont il s'agit aux auditeurs?
Il le dit un peu, là, Raphaël, c'est-à-dire ce sont deux enfants un peu, qui rentrent dans l'adolescence, qui vont se retrouver sans mère, sans leurs parents, et donc enfin avec un père très absent et une mère morte, et donc ils vont être livrés à un monde...
Pensionnat.
Mais il le construit, donc c'est très beau, et on suit ces deux gamins avec... C'est magnifique. Enfin, ça résume cet être qui est Raphaël Haroche, que j'aime infiniment, et qui est un homme qui est doué de... Il a vraiment la tête dans les étoiles et il marche avec des gros godillots sur la terre. C'est très curieux. C'est un poète. C'est un grand poète. Et c'est un être que j'aime profondément.
Charles Berling, vous avez choisi le livre de quelqu'un qui s'est fait connaître d'abord comme musicien, et en parlant de musique, j'ai lu que vous écoutiez en boucle David Bowie.
Oui, comme par hasard, ça, vous avez vu, les artistes qui m'attirent sont aussi des artistes qui disparaissent derrière leurs œuvres, qui ont mille visages. Bon, donc David Bowie, c'est quand même un grand maître en ce qui concerne la panoplie.
On arrive à l'engagement de fin d'émission. Le vôtre, c'est être gentil, naïf et bon, et pardonner à certains. Vous n'êtes naturellement aucun des trois? Naïf, gentil et bon.
Une fois, j'ai joué l'année des 13 lunes. C'était un transsexuel qu'avait dépeint Fassbinder, ce grand cinéaste. Et on avait fait ça au théâtre avec Jean-Louis Martinelli. Et le rôle d'Elvira, c'est-à-dire, on ne peut pas faire un personnage qui a plus de bonté. Ça n'est pas possible. C'est quelqu'un, les gens lui faisaient énormément de mal, il pardonnait à tout le monde, il les regardait toujours avec confiance. Donc c'est la bonté, c'est la première... Enfin, je me disais, en jouant ce rôle, mais je ne peux pas être à la hauteur de cette bonté. Et pourtant, je crois que la bonté, la gentillesse sont des qualités qui sont totalement méprisées. On est dans un monde extrêmement cynique où la bonté est considérée comme de la stupidité. Mais je crois que c'est une grave erreur, c'est très dommage. Et donc, pour moi, c'est pour ça que quand vous m'avez demandé, je vous ai répondu ça, parce que on n'est jamais assez bon. On ne pardonne jamais assez. Il faut pardonner. Parce que finalement, chacun se débrouille, chacun fait comme il peut.
En exergue d'aujourd'hui, maman est morte, Charles Berling, vous demandez pardon à plusieurs personnes, famille et amis. Est-ce que vous pardonnez facilement?
Oui, je pardonne facilement. Je pardonne parce que je pense que... Après, je me défends si on m'attaque. Je pense que je suis assez naïf aussi. Donc, je crois toujours que ça peut s'arranger. Mais j'ai constaté, après, dans la vie, que ce n'était pas toujours le cas.
Est-ce que vous avez beaucoup à vous faire pardonner?
Ah oui, certainement. Bien sûr. Et je crois que... Ça, c'est dans la pièce que je joue actuellement, Les parents terribles de Cocteau. Il dit, on peut faire du mal sans s'en rendre compte. Donc, je suis sûr que j'ai beaucoup à me faire pardonner, parce qu'on fait aussi beaucoup de mal sans s'en rendre compte.
Vous réagissez bien quand des proches vous font remarquer que vous leur faites du mal?
Non, je ne réagis pas bien. Comment est-ce qu'on peut bien réagir à ça ?
C'est vrai, mais on peut d'abord évidemment se révolter, c'est la première réaction qui voilà. semble naturelle, mais après on peut se remettre en question aussi.
Oui, complètement. Mais je pense que j'arrive à m'en mettre en question. Oui, enfin, je peux écouter. Au contraire, j'aime bien quand on me dit la vérité. C'est mieux.
C'est une réelle vertu.
Parce qu'en plus, je pense qu'on est dans un monde où les gens renâclent beaucoup à dire la vérité.
Oui.
C'est de pire en pire.
Oui. Beaucoup de coups à prendre, mais de belles choses à vivre. Charles Berling, merci beaucoup d'être venu.
Ah, merci beaucoup, mais c'est déjà fini.
Oui.
Eva.
Oui, Eva, bravo.
Vous avez vu ? Mais une fois que je le sais, je le sais.
Dans quelques mois, vous serez au cinéma à l'affiche du film Flo de Géraldine Danon. Programmation à venir à la scène nationale Château-Vallon-Liberté. Mon amour, texte de Nathalie Bitan, mis en scène par Didier Ruiz les 3 et 4 mai prochains. Othello de Shakespeare, mis en scène par Jean-François Civadier les 4, 5 et 6 mai. Et Abnégation, texte d'Alexandre Dalfara, mis en scène par Guillaume Durieux les 9, 10 et 11 mai. À signaler aussi, vous incarnez Léon Blum dans la série de podcast Léon Blum, une vie héroïque de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet et disponible sur l'application Radio France et le site de France Inter. Il y aura une adaptation scénique en juin, produite par Château Vallon Liberté au domaine d'eau, Micocoulier à Montpellier, dans le cadre du Printemps des Comédiens, dans lequel vous faites aussi, après la répétition, de Bergman. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi résolus qu'un édredon sentinelle. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.